Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, Christina Silvero au micro. Cette semaine dans Escale, rediffusion de notre interview avec le lauréat du prix des 5 continents de la francophonie 2017, Yamen Manaï. L'auteur tunisien est venu présenter son roman « Lama ardent » au siège de l'ONU dans le cadre du printemps de la francophonie. L'occasion de le recevoir dans nos studios et de lui demander ce qui l'a poussé à écrire ce livre qui porte à la fois sur la protection de l'environnement, l'importance de l'éducation et la lutte contre l'extrémisme sur fond de révolution tunisienne.
Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est une sorte de colère dans laquelle j'étais en train de sombrer à force de voir la marche démocratique que ambitionnait la Tunisie connaître beaucoup de difficultés et aussi de voir énormément de violences perpétuées dans les quatre coins du monde, que ce soit en Europe, au Moyen-Orient, ou en Afrique du Nord et même en Afrique subsaharienne, au nom de la religion, au nom de Dieu. Cette colère que j'ai cumulée, je n'arrivais pas à m'en dépêtrer. Et heureusement pour moi que j'ai réussi à me guérir à travers la littérature. Écrire ce livre a été pour moi une grande thérapie pour pouvoir justement maintenir en moi l'espoir et ma foi en l'être humain.
Alors vous racontez l'histoire d'un le personnage central qui est apiculteur. Pourquoi avoir choisi un apiculteur? Pourquoi les abeilles?
Alors, les abeilles sont responsables des deux tiers de ce qu'on mange. Elles pollinisent les fruits et les légumes et du coup, elles permettent à la mécanique de la vie de continuer à œuvrer, à se perpétuer et elles symbolisent la vie. Et l'apiculteur, en anglais, on l'appelle beekeeper, en fait, c'est-à-dire le gardien des abeilles. Donc en fait, c'est le gardien de la vie. Cet apiculteur, il fait l'apologie de la vie, contrairement aux extrémistes qu'il combattra dans le livre, qui eux font l'apologie de la mort. Et d'une ambition mortifère pour la société en disant que la vie sur cette terre, la vie en société ne vaut pas grand-chose et que la meilleure vie, c'est celle qu'on trouve après la mort. Donc voilà pourquoi il y a eu ce choix-là de l'apiculteur, mais aussi ce choix s'est imposé parce que les abeilles permettent à la fois de traiter de la question sociale, parce qu'en fait, elles vivent en société, et aussi de la question écologique. Parce que nos enjeux aujourd'hui ne sont pas uniquement politiques. Il faut que vraiment qu'on commence à s'intéresser à l'état de notre planète, à l'état des espèces qu'il nous faudra sauvegarder. Il faut qu'on se remette à notre place, c'est-à-dire une espèce parmi les autres et pas une espèce au-dessus des autres.
Vous vous y connaissiez en abeilles?
Alors je me connaissais en abeilles un petit peu avant d'écrire ce livre, mais j'ai énormément progressé lors de l'écriture. Je me suis énormément documenté, j'étais au contact des abeilles. J'étais même piqué par des abeilles. Et voilà, donc du coup, je ne suis pas apiculteur, mais écrire ce livre-là m'a donné envie vraiment de le devenir. J'ai beaucoup appris de mon personnage.
Comment se fait-il que vous avez choisi de ne pas nommer le pays dans lequel se déroule l'histoire?
C'est pour donner au livre une dimension universel, l'essentiel du local il est là et il est tellement essentiel en fait qu'il surpasse le local pour s'inscrire dans l'universel. C'est pour ça que j'ai choisi de ne pas forcément nommer les choses mais de faire des allusions. Ces allusions permettent aussi à d'autres personnes dans des pays qui traversent la même crise et les mêmes périodes de se reconnaître aussi dans le livre et donc du coup vraiment de s'approprier le texte comme s'il émergeait de leur écosystème.
Alors, dans l'histoire, dans le roman, on voit qu'au moment de la chute du régime, de la chute du Beau, il y a différents groupes de personnes qui arrivent. Les uns débarquent avec du matériel électoral sans donner beaucoup plus d'explications et le laissent là. Les autres, donc les extrémistes, arrivent avec des biens qui répondent vraiment aux besoins essentiels de la population.
Alors, ils le font, c'est vrai, mais dans un but vraiment électoral parce que après, ils ne le font plus. Une fois qu'ils sont élus, ils ne subviennent plus aux besoins du peuple et aux besoins de ces petits villages. Donc oui, en effet, pendant la période des élections en Tunisie, il y a eu ce genre de scène. Il y a eu ce parti fondamentaliste que j'appelle dans le livre le Parti de Dieu. Il y a eu des caravanes qui sont parties sillonner l'arrière-pays pour promettre mont et merveille à ces villageois, à ces gens pour lesquels la vie n'a pas changé. ni avant la Révolution, ni après. Il y a des gens, en fait, qui sont toujours aussi démunis et aussi pauvres avant Ben Ali qu'après. Et la Révolution se devait de ramener de la dignité à ces gens. En tout cas, c'est comme ça qu'on a voulu l'appeler en Tunisie, on l'appelait la Révolution de la dignité. Force de constater que la dignité n'a pas été rétablie pour tout le monde. Et j'ai voulu, à travers ce livre, rendre hommage à ces petits villageois de l'arrière-pays tunisien qui continuent jusqu'à aujourd'hui d'être floués et de ne pas rencontrer les dirigeants qui sont sensibles vraiment à leur cause, alors que voilà, ils font partie intégrante du paysage du pays. On s'intéresse à eux quand il y a des élections parce que leur vote vaut la même chose que le vote de n'importe qui. Mais une fois que les élections passent, ils n'existent plus.
On voit d'ailleurs qu'ils se détachent un peu de ce parti lorsque les abeilles, les filles du personnage principal, sont mises en danger par des nouvelles venues importées par les extrémistes, en fait.
En fait, dans ce livre, il y a une allégorie sur l'intrusion de certains discours salafistes que ne connaissait pas la Tunisie avant, et donc sous la forme d'un fléau qui va toucher les abeilles du Don, donc le personnage principal. Les villageois étaient entre guillemets, responsable en ayant accepté sans réfléchir les cadeaux qu'on leur a distribués dans les buts des élections. Mais comment leur en vouloir de prendre ce qu'il faut pour manger, pour se couvrir? Donc c'est ce qu'on leur a donné et c'est ce qu'on leur a promis en échange de leur voix. Malheureusement, comme je vous ai dit, la situation n'a pas changé parce que c'est une cible électorale avant tout. Donc une fois que les élections passent, on ne s'y intéresse plus. Et ils ont compris ça parce que les gens qui leur ont distribué des cadeaux ne sont plus revenus après. Ils se sont retrouvés donc, dans le village, toujours avec les mêmes problèmes, mais en plus avec les abeilles massacrées. Donc du coup, les villageois vont prendre conscience de leur part de responsabilité et vont agir, vont mettre en branle cette solidarité qu'on se doit tous avoir dans le but de sacraliser la vie, donc dans le but de sauver les abeilles.
Autre thématique assez importante aussi dans le livre, c'est l'importance de l'éducation, tant pour les filles que... D'une façon générale aussi, on voit à l'université que les professeurs sont mis en danger sous le nouveau régime.
Absolument.
La laïcité de l'éducation commence à être mise en question.
Oui, en fait, c'est dans le roman, il y a un vrai épisode qu'a connu l'université tunisienne, c'est-à-dire à un moment, il y a des élèves de la mouvance la plus radicale qui se sont manifestés et qui ont demandé au doyen de la faculté d'arrêter les cours pendant la prière et de séparer les garçons et les filles. L'université est le miroir du progrès social. Si l'université va bien, c'est-à-dire la société a de l'avenir, si l'université va mal, la société est mal. D'ailleurs, beaucoup de grandes révolutions très charnières qui ont eu un vrai impact sur... la réalité, sont partis de l'université. Je cite comme ça à la volée mai 68 qui est parti de l'université de Nanterre. Et aujourd'hui, c'est un progrès social à tous les niveaux pour beaucoup de choses, y compris pour les droits de la femme, notamment à l'avortement, etc. Donc oui, en effet, l'université a été en danger. Il y a eu énormément de gens qui se sont battus pour qu'elle puisse garder son indépendance, pour qu'elle puisse garder sa laïcité. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est gagné, mais ça veut dire qu'il faut être vigilant à tous les niveaux et surtout à ce que les programmes de demain dispensent ce qui est suffisant pour éclairer les esprits. L'éducation, c'est quelque chose de très important et on ne peut pas établir ou se targuer de mettre en place une démocratie si les esprits ne sont pas éclairés suffisamment. Voilà. Dans l'université, dans l'école, avec des librairies, avec des bibliothèques, avec une vraie politique de culture, ce qui manque encore aujourd'hui.
Et l'éducation, en fait, est la clé pour la nièce du Don.
Absolument.
Qui, à la fin, arrivera à peut-être sauver les abeilles.
Absolument. En fait, pour ne rien vous cacher, cette nièce du Don est inspirée du personnage de ma mère, qui est institutrice et qui a connu pratiquement les mêmes péripéties que le personnage du livre, hormis bien entendu le voyage au Japon qui reste de la fiction. Mais en effet, ce que j'aime dire et ce que j'aime souligner dans mes livres, c'est que souvent la solution est portée par la femme. Souvent les hommes sont très préoccupés à faire la guerre, et les femmes sont prêtes à les sortir de là. D'ailleurs, il y a un proverbe peul du Mali qui dit « Si les femmes s'occupent de la guerre, ça s'appellera la paix.
» Vous parlez de l'importance de la femme, des droits de la femme. Il y a un rapport entre la nièce et son mari qui est vraiment égal. Dans le progrès social, on voit des revendications par rapport aux droits de la femme et à la place que peut occuper la femme. Comment est-ce que vous voyez la place de l'homme? Il faut quand même qu'ils aillent main dans la main. Comment est-ce que vous voyez la place de l'homme dans...
En fait, je n'arrive pas, et vraiment, c'est une incapacité à me projeter dans l'individu d'une façon sexuée. Je pense que nous avons tous le même potentiel, c'est-à-dire on est des êtres spirituels avant tout, on a tous une âme, bon, on a des sexes biologiques différents, on n'a pas forcément les mêmes fonctions. Tous, hein, les femmes sont... C'est elles qui mettent bas, c'est elles qui tombent enceintes, etc. L'homme n'a pas cette capacité-là, donc biologiquement on est différent, mais on est différent dans le sens de la complicité. On n'est pas différent dans le sens de la domination. Et toute différence ne doit pas susciter des envies de domination, mais plutôt de la curiosité et de la complicité. Donc oui, la femme est essentielle autant que l'homme, et leur place, ils doivent la trouver autour d'un projet commun humaniste qui va au-delà, qui transcende les questions de sexe, d'origine, de race, etc. Mais vraiment, je pense, porté par l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres.
Alors, la solution, en tout cas pour les abeilles, vient de l'Asie, de l'Orient extrême. Pourquoi oui. L'Asie?
En fait, parce que scientifiquement, la solution est prouvée et c'est de là que vraiment peut venir la solution au fléau qui touche les abeilles du don. Donc, il n'y a pas 36 000 lieux où chercher la solution, c'est vraiment en Extrême-Asie. Et ça tombait bien parce que j'avais envie dans ce livre de réhabiliter la question de la religion, sans vouloir bien entendu effrayer, parce que quand moi je parle de religion, je ne parle pas de rituel, je ne parle pas de dogme, mais je parle vraiment de quelque chose de spirituel, je parle de quelque chose de transcendant. Donc dans cette religion qui est la mienne et qui est la religion musulmane, il y a une parole qu'on rapporte au prophète et que j'aime particulièrement. Alors j'aime pas tout ce qu'on lui rapporte parce que je suis très critique par rapport à l'histoire de l'islam et comment elle est écrite. On gagnerait tous à se poser et à avoir un regard critique, une lecture un peu critique. Donc il y a énormément de paroles qu'on rapporte au prophète auxquelles je ne crois pas, mais il y en a d'autres qui me plaisent particulièrement bien parce qu'ils vont dans le sens de ma pensée. Donc je suis un mauvais client, je prends ce qui me plaît. Et ce qu'on rapporte au prophète, c'est cette phrase qui dit « Allez chercher le savoir, même en Extrême-Orient ». C'est pour dire en fait que le vrai sens, en tout cas, du mouvement ou de la recherche individuelle, c'est le savoir. Et même il y a d'autres symboles de ça dans la religion musulmane, d'autres paroles qui disent que Dieu aime à être connu, mais n'a pas envie d'être vénéré, en quelque sorte. Donc c'est le chemin de la connaissance, c'est connaître qui est le clé de voûte de notre vivant ensemble. Si on est ignare les uns des autres et ignare de la nature qui nous entoure, on finira, bien entendu, comme n'importe quelle autre race animale. L'être humain a pour lui cette conscience-là, a pour lui cette interrogation, cet étonnement, a la possibilité d'aller chercher la connaissance là où ça manque. Et donc, voilà notre plus grande force et voilà ce qu'on devrait faire tous les jours, être sur le chemin de la connaissance.
L'un des aspects qui m'a beaucoup frappé dans le livre, c'est l'équilibre qu'a en lui le don par rapport à la vie, la nature, les abeilles. C'est pour moi, c'est un peu une reconnaissance du sacré dans la vie.
En fait, au contact accru des abeilles, on arrive à voir ce qu'il y a de précieux dans le monde. Hein, le miel, c'est quelque chose de très précieux. La gelée royale, elle est encore plus. Cette nature-là, dans laquelle s'inscrit le don, l'emplit de sagesse et le remet à sa propre place. En fait, il sait que c'est un élément parmi les autres. En revanche, il y a une sorte de vanité qui peut se nourrir quand on coupe le cordon avec la nature, quand on affirme que je pense donc je suis un être supérieur, je suis là, je peux assécher des lacs, détruire des montagnes, faire ce que j'ai envie de faire. Ok, on a la possibilité de le faire, mais c'est pertinent? Est-ce que c'est pertinent? Je ne le pense pas. Le don a sa place, il a réussi à trouver l'équilibre qui est nécessaire pour lui et qui au final l'emplit de sagesse.
Et c'est avec les paroles de Yamène Manaï que se referme cette édition d'Escale. Escale, le magazine hebdomadaire d'ONU Info, vous a été présenté cette semaine par Christina Silvero. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence.